est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Et je vous invite à prier ensemble pour remercier Dieu de son salut et pour qu'il bénisse sa parole pour nous ce matin. Notre Dieu, nous ne pourrons jamais assez te remercier pour ce que tu as fait pour ce monde que tu as toi-même créé. C'est vrai, l'être humain que tu as créé s'est même rebellé contre toi. Mais toi, tu es quand même venu sur terre, tu es malgré tout devenu toi aussi un être humain, tout comme nous. Seigneur, merci pour ton salut, gratuit et accessible à tous. Seigneur, merci pour ton amour. Accompagne-nous maintenant dans la suite de notre culte. Parle-nous par la prédication de ta parole et ouvre les oreilles de nos cœurs. Que ta parole puisse venir nous encourager, nous montrer ton amour, mais aussi nous sensibiliser à ta justice. Amen. Une parabole d'économiste, c'est la première prédication de notre série Parabole d'été. Et si on veut parler d'une parabole d'économiste, il faudrait préciser ce que c'est l'économie. L'économie, selon le dictionnaire du Larousse, c'est un ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses. C'est une définition contemporaine. Un autre dictionnaire donne, celui du Robert, donne une version ancienne. Je cite « bonne administration des richesses matérielles d'une maison ou d'un État ». J'aime bien cette définition ancienne parce que, pas parce qu'elle serait meilleure que la première, mais plutôt parce qu'elle nous rapproche de ce qu'était l'économie au temps de Jésus. Et après, une définition, une personnalité. Et on fera comme ça pour chaque épisode de notre série. Et la personnalité du jour, vous la connaissez peut-être, peut-être pas, c'est Esther Duflo. C'est une économiste, prix Nobel, et je passe tous ses attributs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a beaucoup travaillé sur l'économie des plus pauvres et sur les moyens utilisés pour faire sortir les gens de l'extrême pauvreté et surtout dans les pays qu'on appelle les pays du Sud. Pour elle, je cite, « Le problème, c'est que la plupart des politiques économiques sont basées sur des intuitions. » Et justement, en parlant d'intuition, je vous propose de lire ensemble l'histoire du jour, l'histoire que Jésus raconta à une foule de gens qui le suivaient et avec qui il discutait. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens. » Même si elle est très riche. Il leur raconta alors une parabole. Un riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait : Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. Puis il ajouta : Voici ce que je vais faire. Je démolirai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même : Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit : Insensé. Cette nuit même, tu devras rendre ta vie. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ? Jésus ajouta : Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. Amen. Alors, on reviendra sur l'intuition de l'homme riche, mais d'abord quelques mots de contexte. Jésus est un rabbin juif, et outre leurs tâches spirituelles, il était courant que les gens viennent vers les rabbins pour leur demander leurs avis, leurs conseils et leurs jugements, aussi pour des affaires légales. Et la question qui est posée à Jésus, elle est donc légitime, celle de l'héritage. Mais pourquoi Jésus répond-il à côté ? Pourquoi dit-il : Ce n'est pas à moi de m'en occuper ? Eh bien, parce qu'il ne veut pas seulement répondre à l'affaire d'héritage de cet homme, mais il veut en profiter pour parler à tous, pour parler à tous ceux qui l'entourent. Et pour cela, il rebondit, il profite de la question posée pour parler à la foule d'une chose importante. Qui sait, peut-être que Jésus a quand même réellement traité cette question d'héritage de cet homme. On ne le sait pas. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons nous-mêmes beaucoup à faire dans notre vie quotidienne. Nous avons nous aussi des affaires à traiter, des choix à faire, des problèmes légaux ou juridiques parfois. Nous avons aussi des résultats, des fois des beaux résultats professionnels, mais parfois aussi de gros soucis. Et en termes d'héritage, la famille, c'est pas toujours simple. Et là, quelque part, au milieu de ces difficultés, le Christ est là. Et le temps d'un échange avec la foule ou avec nous-mêmes aujourd'hui, il nous fait changer de perspective, ou il veut nous faire changer de perspective, pour nous faire réaliser quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, son amour, sa présence. Et c'est ce même type de changement de perspective que Jésus veut opérer pour ses auditeurs. Alors on résume les personnages. Il y a donc un homme qui apporte à Jésus son problème d'héritage. Il y a Jésus, bien sûr. Il y a la foule à qui Jésus raconte son histoire. Et puis il y a cet homme riche, ou ce riche insensé, comme on l'appelle parfois. Cet homme riche qui ne sait plus quoi faire de son succès et de son argent. Alors, mettons-nous dans la peau d'un ou d'une économiste. Que dirait, par exemple, notre personnalité du jour, tout à l'heure, Esther Duflo, de la façon dont cet homme gère son business ? Est-ce qu'on pourrait analyser sa posture en disant qu'il a plutôt un profil prudent ? Et qu'il préfère épargner à taux bas, mais en lieu sûr, dans ses propres greniers, au lieu d'investir et de diversifier son activité et ses revenus en vendant le surplus de ses récoltes. Ou bien est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il a agi plutôt par intuition que par sagesse ou planification ? Mais on l'a vu, Jésus veut décaler son auditeur. Il veut lui faire quelque part, on l'a dit, hein, changer de perspective. Il l'avait fait avec l'homme qui venait vers lui avec une question d'héritage. Et là, il le refait à nouveau par l'histoire qu'il raconte. Et le véritable économiste dans l'histoire, ce n'est pas l'un d'entre nous. Ce n'est même pas Esther Duflo ou encore les plus riches hommes d'affaires de ce monde, comme Bernard Arnault ou Elon Musk, ou qui sais-je encore. Non, le véritable économiste dans l'histoire, c'est Jésus. Et son analyse est fine et perspicace. Et il pointe trois failles dans la posture de l'homme riche. La première faille, l'homme ne pense qu'à lui-même. Au lieu de penser à ses ouvriers et à ceux qui ont moins, qui peinent à avoir de quoi manger, il se demande ce qu'il pourrait bien faire de ses biens, qu'il a en surplus, pour les préserver et les garder près de lui. Et je ne sais pas pour vous, mais là, moi j'ai une image qui me vient en tête, c'est celle de Picsou. Picsou et son immense coffre-fort rempli d'argent, dans sa maison. Mais il y vit seul. Il ne se préoccupe guère des autres, même pas de ses propres neveux. Deuxième faille, l'homme est de ceux qui pensent qu'il faut d'abord détruire l'existant pour pouvoir faire mieux ensuite. Pour lui, la fin justifie les moyens, qu'importe les dégâts. Et là, l'image qui me vient en tête, c'est celle de Thanos, dans l'univers Marvel, qui pense que détruire la moitié de la population de la Terre permettra à l'autre moitié de mieux vivre. Troisième faille, l'homme est incapable de se satisfaire de ce qu'il a. Il en veut toujours plus. L'avidité et la cupidité le rendent captif. Il veut construire encore plus grand. Il veut amasser tous ses biens. Il veut toujours plus. Et là, l'image qui me vient en tête, c'est celle d'un président qui veut toujours plus, toujours plus grand pour lui-même, qui se croit au-dessus des lois de son pays et des lois des pays des autres. Et je vous laisse mettre la tête ou le nom du chef d'État que vous voulez, même si je pense à un en particulier. Mais heureusement, Jésus ne s'arrête encore une fois pas là. Jésus ne s'arrête pas aux critiques et aux constats parfois amers ou difficiles à avaler quand cela nous concerne nous-mêmes. Non, Jésus, en bon économiste, donne des conseils. Et l'auteur de l'Évangile souligne bien ces conseils. Et il en donne, on en souligne trois. Le premier conseil, c'est Jésus qui parle et qui dit « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'une personne ne dépend pas de ses biens, même si elle est très riche. » Et ce que Jésus pointe ici, c'est le fait que ce n'est pas la richesse qui donne la vie ou qui maintient en vie. Ce n'est pas non plus la richesse qui garantit que notre vie sera une belle vie. La vie, ma vie, est plus importante pour Dieu que mes richesses, aussi grande soit-elle. Et ça, c'est une parole d'évangile. Ça, c'est une parole d'espérance pour nous, parce que ça veut dire que l'évangile, que l'accès à Dieu lui-même n'est pas conditionné par notre compte en banque ou par notre statut social. Que le compte soit rempli ou non, qu'on soit Picsou ou Donald, pour reprendre l'image, Dieu se rend accessible à tous. Il y a là une égalité parfaite. Et tous les sous du monde ne peuvent rien contre ça. Deuxième conseil de Jésus, il dit « Insensé, cette nuit même, tu devras rendre ta vie, et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Et l'auteur de l'Évangile fait ici référence à un autre livre biblique, un, un livre philosophique, hein, presque, celui de l'Ecclésiaste, ou du Coëlète. Et dans ce livre, on y parle de beaucoup de sujets, mais aussi de la futilité de la vie. Qu'est-ce que la vie humaine, finalement ? Si peu de choses face à l'immensité de Dieu. Et Jésus nous pose ici une question existentielle. Pourquoi vouloir accumuler tant d'argent ? Dans quel but ? Dans quel timing ? Jésus nous conseille d'investir sur le long terme avec lui. Pas seulement sur des opérations achat-vente ou boursières, le temps d'une vie de plus ou moins 80 ans sur cette terre. Non, Jésus nous conseille d'investir dans la vie avec lui. Il nous rappelle que croire en lui, accéder à son salut, c'est vivre avec lui pour toujours, en sa présence. Et c'est ça, l'espérance chrétienne. Un troisième conseil, Jésus conclut sa parabole en disant « Ainsi en est-il de la personne qui amasse des richesses pour elle-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Jésus, l'économiste, ne propose pas une économie égocentrée. Il ne propose pas de modèle pyramidal où ses disciples et les disciples de ses disciples lui rapporterait beaucoup d'argent, et c'est ce modèle qu'il nous faudrait reproduire. Non, Jésus nous propose une économie du don, tournée vers les autres. Une économie où nous produisons un peu de richesse, certes, mais en étant conscients du monde qui nous entoure. En étant conscients que la façon dont nous produisons nos richesses ne devrait pas nuire aux plus faibles. En étant conscients que la façon dont nous produisons nos richesses ne devrait pas aller dans le sens contraire du prendre soin de l'autre et du prendre soin du monde dans lequel on vit. Tout un programme. Malgré tout, les conseils de l'économiste Jésus sont à voir, à appliquer à deux niveaux différents. Et il nous emmène vers une finalité, un objectif final. Le premier niveau, c'est celui de notre vie sur terre. Qu'on se le dise, Jésus n'est ni de droite ni de gauche. Et c'est d'ailleurs intéressant, d'un point de vue historique, comment des protestants ont influencé chaque bord. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce que nous faisons, nous, en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce qui nous attire ? Vivre une économie égocentré, où tout devrait tourner autour de nous, ou bien vivre une économie du don à la suite du Christ, une économie où, sans se perdre, ça c'est important, on gagnerait tant à donner, à partager quand on peut, on gagnerait tant à simplement penser à l'autre dans notre consommation, par exemple, quand on a moins de moyens. On gagnerait tant à vivre un peu mieux quand on fait attention à nous et qu'on n'a presque rien. Deuxième niveau, c'est celui de notre vie en présence de Dieu. Sur une terre renouvelée, une vie future. Qu'on se le dise, aucun système économique humain ne sera parfait. Mais Dieu a autre chose en tête que des systèmes économiques. Dieu a en tête l'avenir. Et l'espérance qu'il propose à l'humanité, c'est un jour de vivre pour toujours en sa présence totale et permanente. Sur une terre renouvelée où il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrances, plus de tristesse causée par une économie égocentrée, causée par l'amour des richesses plutôt que l'amour du prochain, causée par la méchanceté et la volonté de dominer sur l'autre. Le Christ lui-même sera là, avec nous, et nous vivrons avec lui. En cela, Jésus est l'analyste économique idéal. Il connaît d'avance le cours des marchés, il en est lui-même le maître, Ce maître vers qui on peut venir pour poser une question d'ordre économique ou d'ordre légal, comme pour un héritage. Mais il est aussi ce maître qui nous aime, chacun d'entre nous, qui nous a donné la vie et qui veut même partager la sienne avec nous. Amen.